Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité ce midi. Il est scénariste et réalisateur. Né au Brésil, où il a grandi, il part ensuite faire ses études de cinéma à New York, passe un temps par Paris pour vivre aujourd'hui à Berlin. Quant à son dernier film, eh bien, il nous plonge dans l'histoire royale britannique. Le jeu de la reine, qui sort en salle aujourd'hui, raconte les derniers mois de la vie de Catherine Parr, la sixième et dernière femme d'Henri VIII. Il dresse le portrait de cette femme, très moderne, un parti pris dans une histoire officielle qui a invisibilisé les femmes.
Bonjour Karima Aynouz.
Bonjour,
bienvenue.
Merci pour l'invitation.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Karima Aynouz, Le jeu de la reine, c'est l'adaptation d'un roman du même nom, du même titre, d'Elizabeth Freemantle. La productrice britannique est venue vous chercher avant même la sortie du livre. Elle voulait que ce soit vous, Karima Aynouz, qui réalisiez ce film. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Alors, c'était une question que je lui ai posée quand on s'est rencontrés la première fois. Je me souviens, c'était juste avant la pandémie. C'était en 2020, pendant le festival de Berlin. Elle débarque dans mon quartier. C'était mon agente anglaise qui nous avait présenté. Et c'était une femme adorable, très intelligente, très sophistiquée, et qui me propose ses projets. Et j'ai dit, mais pourquoi moi? Je crois que vous avez la mauvaise adresse. Et elle a dit, ben non, je crois pas. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai adoré quelques vos films, et surtout La vie invisible de Lydie Guzman, qui est sortie en France en 2019. Et elle m'a dit que Catherine Parr, c'était un peu dans la même... Il y avait une espèce de ligne rouge qu'elle trouvait dans les films que j'avais fait avant avec les personnages féminins. Et que Catherine Parr, même si elle était une reine anglaise qui avait vécu dans les années 1500 quelque chose, elle lui rappelait beaucoup de personnages que j'avais fait avant. Et j'ai dit, bah, là, ça c'est intéressant, mais en même temps, c'était pas suffisant pour me convaincre de rentrer dans ce projet. Parce que aussi, il avait... C'était tellement loin de chez moi, enfin, l'histoire anglaise. Moi, je savais pas qui était Henri VIII. Je connaissais rien de l'histoire anglaise. Mais j'ai pas de la pandémie parce que pendant la pandémie, elle m'a envoyé beaucoup de livres chez moi à Berlin pour que je puisse lire et que je puisse savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et après, je lui ai proposé, je disais, il a beaucoup de livres, il faut que je fasse des cours. Et elle a dit, mais quel genre de cours? J'ai dit, ben, des cours, c'est l'histoire de Catherine Parr, c'est l'histoire anglaise des années, dans les 16e siècle. Et j'ai passé un peu mon moment de la pandémie. Je crois qu'on a eu 12 séances en total avec deux historiens anglais pour que je comprenne un peu sa première proposition, pourquoi moi et pourquoi Catherine Parr. Et à la fin, j'ai compris, comme vous avez dit, c'est un personnage très moderne. C'est un personnage que je trouve qui m'a aussi permis de sortir de ma zone de confort. C'est pas un film brésilien, c'est un film en langue anglaise. Un film d'époque qui se passe très très loin. Moi, je me disais, c'est un film qui se passe au même moment où les Portugais ont envahi le Brésil. Et je trouve ça, c'est intéressant de voir qui était de l'autre côté du monde à ce moment-là. Et finalement, elle avait raison, parce que je crois que c'est un personnage qui m'a beaucoup touché et qui était vraiment une autre façon de parler de même thème que j'avais parlé avant avec des films brésiliens ou des films qui n'étaient pas anglais, quoi.
On va donc découvrir la bande-annonce du Jeu de la Reine.
We're proud of you. You're an excellent regent.
The Queen!
I wish I could have done more.
I bet. You must be careful. Always hold the line.
La révolution est en marche!
Vos affinités avec les radicaux pourraient menacer la stabilité du royaume.
J'ai la conscience. Tranquille. J'ai l'intime conviction que j'ai été choisie par Dieu pour l'amener à penser autrement.
Vous ne voulez pas me faire souffrir?
Jamais.
Il veut la preuve qu'elle l'a trahi d'une manière ou d'une autre.
Vous êtes un esprit vif. Cela vous a mené trop loin.
Cela devient extrêmement dangereux. Plus de mensonges quittent.
À quoi peut-il me servir d'être reine si je n'ai pas le courage de mes convictions?
Votre film, Karima Aynouz, Le jeu de la reine, est en salle aujourd'hui avec Alicia Vikander et Jude Law pour les voix originales et pour le jeu, pas pour les voix françaises. Donc Jude Law qui incarne le roi Henri VIII et Alicia Vikander qui joue donc Catherine Parr, sa sixième épouse, et c'est donc bien elle le personnage principal, et c'est ça qui est intéressant, et c'est aussi pour ça, vous l'avez dit, que vous avez accepté ce projet, c'était de raconter ces derniers mois à elle, alors que son mari, le roi Henri VIII, va terminer son règne, puisqu'il va, on est à la fin de sa vie, en
oui,
quelque sorte.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qui, dans ce personnage de femme stratège, de femme d'État, puisque
oui,
nous sommes en 1546,
oui,
et durant ces quelques mois, elle est même régente, c'est elle oui, qui est au pouvoir, puisque le roi Henri VIII est parti. C'est ce personnage-là qui vous a fasciné?
C'est ce personnage-là, c'est le personnage aussi d'une femme... Oui, d'une femme qui était chef d'État. Il était parti en France, en fait, et elle a resté. Et je crois que c'est la première fois qu'il déléguait les pouvoirs à une femme, à sa femme. Mais je crois que ça, c'était très important pour moi. Mais le fait que c'est aussi une femme qui a élevé les enfants qui n'étaient pas ses enfants biologiques. Et je trouve que ça, c'était vraiment généreux de la part de Catherine. C'est une femme qui avait été mariée deux fois déjà. C'était son troisième mari, elle avait la trentaine, elle n'avait pas d'enfant. Et elle a quand même beaucoup aidé à élever Elisabeth, Édouard et un peu Mary, qui était la fille de Catherine d'Aragon. Et Catherine pas, en fait, elle était nommée Catherine à cause de Catherine d'Aragon. Elle connaissait bien la mère de Mary. Une chose qui m'a vraiment touché, c'est que finalement, quand on regarde les reines d'Elisabeth qui viennent après Henri VIII, enfin, il y en a deux ou trois personnes qui sont passées au pouvoir, c'est la reine qui a resté au pouvoir le plus longtemps dans cette dans l'histoire de l'Angleterre. Je trouve même à l'exception d'Elisabeth la deuxième. Et je trouve qu'Elisabeth, elle a été vraiment éduquée par Catherine. Et je trouve que c'était pour moi très important de faire un portrait d'une femme qui était quand même, comme je vais dire, une femme d'État, mais aussi quelqu'un dont ce qu'elle a laissé, c'était plutôt l'éducation, c'était les partages. Et c'était une autre façon de manœuvrer, je ne sais pas si on dit ça comme ça en français, les pouvoirs. Et pour moi, ça, c'était pas simplement très beau, mais ça me rappelle beaucoup de mon expérience personnelle. Je crois que c'est là que je me suis dit, je fais ces films, ça me rappelle beaucoup de ma mère et de toutes les femmes, de la génération de ma mère. Et les choses qu'elle pouvait laisser, c'était pas l'argent, mais c'était l'éducation.
Henri VIII, en France, on le connaît, il a combattu la France et l'Espagne. Et souvent, on aime effectivement raconter ce roi tyrannique, ouais, qui a tué ses épouses, divorcé, décapité, décédé, divorcé, décapité, rescapé. C'est cette petite musique qu'on se raconte en Angleterre pour se souvenir du sort des femmes de ce fameux Henri VIII, qui les a donc soit tuées, soit envoyées, enfin en tout cas, dont il s'est débarrassé, on peut clairement le dire. Et donc, même dans l'histoire des historiens, dans les documentaires, on aime souvent raconter l'histoire de ce roi. Et on a complètement oublié qui était cette Catherine Parr.
Je crois qu'on a oublié qui était Catherine Parr, mais on a aussi beaucoup raconté des histoires sur des autres femmes, qui étaient des femmes qui ont été soit tuées ou soit abandonnées par Henri. Et aussi, une autre raison que j'étais décidé et déterminé de faire ce film, c'est parce que je trouvais comment ce film n'a pas été fait avant. Les livres ont été publiés. Je crois qu'il y en a des livres de fiction sur Catherine, un de quels c'est le livre de Liz Fremantle. Et après, il y a deux ou trois biographies par des historiennes. Mais moi, j'étais vraiment choqué par le fait qu'il avait beaucoup de films sur les rois, comme cette espèce de tyran. Cette musique que vous avez mentionnée, ça m'a vraiment touché. C'est une musique qui est chantée par des enfants dans l'école en Angleterre. Et c'est comme si on chantait une musique très joyeuse sur un tyran, quoi. Pour moi, c'était une espèce de naturalisation de la violence qui est incroyable, quoi. Comment on peut célébrer quelqu'un comme ça avec des enfants qui chantent à l'école avec une musique très innocente? Et l'autre chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de films, pas beaucoup, mais assez, un nombre conséquent de films sur les femmes qui ont été tuées par Henri VIII. Et là, la seule qui avait survécu, on la traitait comme la femme infirmière, comme la femme qui était un peu pas très intéressante, qu'elle était un peu boring, qu'elle était un peu...
ennuyeuse.
Et c'est là que je trouve que c'était important de... Pour un cinéaste, pour quelqu'un qui raconte des histoires, c'est toujours incroyable quand on a quelque chose qu'on dit, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est quand même choquant. Mais je crois qu'on a une obsession avec des femmes mortes. Hein. Il y a beaucoup de films sur les femmes qui sont mortes, qui sont assassinées. Et là, pour moi, le défi, la joie et les plaisirs, c'était vraiment de faire le contraire.
Quelle part de réécriture il y a eu sur ce personnage de Catherine Parr, dans la mesure où vous avez dit que vous êtes beaucoup documenté, vous avez même suivi des cours avec des historiens, et en même temps, vous avez aussi beaucoup pensé à la génération de votre mère, à votre mère. Donc il y a forcément une part, vous, de projection ou de fantasme sur ce qu'elle était, sur son caractère.
Il a des choses, hein, parce qu'il faut toujours se souvenir que c'est un Brésilien qui fait un film sur... C'est comme si j'étais invité pour faire un film sur Louis XIV, vous imaginez ? Ce serait vraiment quelque chose de vraiment inimaginable. Et pour moi, c'était très important d'être très précis par rapport à la recherche. Parce que c'est comme si je n'avais pas le droit de le faire. Et pour affirmer les droits de le faire, je crois que c'était très important d'être précis. Alors, tout qui est dans les films a été vraiment recherché. Évidemment, la trame, c'est les romanesques, voilà. C'est une fiction. Alors, tout ça, ça a été un peu inventé. Alors, il a un côté du film qui est complètement précis, recherché dans tous les détails. Tous les habits ont été faits pour les films. Tous les tissus étaient les tissus qui étaient les tissus qui avait pas de trucs synthétiques, par exemple. En même temps, les films, il y a une espèce d'un truc, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais, je dirais, c'est une espèce de revenge fantasy. Comment on dirait ça en français?
Une histoire de vengeance.
Ouais, fantasy de vengeance, ouais. Quoi. Parce que je crois qu'il a aussi, moi, je trouve que c'est super important qu'on sache, c'est un film qui a été fait en 2023, sur quelque chose qui se passe en 1647, et on a des outils, on a un contexte qui fait que, même s'il était précisément recherché, les points de vue, c'est du point de vue très contemporain sur cette femme.
Justement, c'est une intrigue. Il y a une intrigue, puisqu'on est au moment où le roi Henri VIII revient de cette guerre. C'est Catherine Parr qui est régente. Et on est justement dans ce déjouement des pièges qui vont être tendus à Catherine Parr par le roi, par la cour, par l'évêque aussi. Puisqu'il faut expliquer que Catherine Parr, c'est une femme éclairée, une femme émancipée, une femme moderne, qui va même jusqu'à soutenir la réforme. Oui. On est au XVIe siècle et l'Église d'Angleterre est en train de rompre avec l'autorité du pape et avec l'Église catholique romaine. Et c'est la position de Catherine Parr contre le roi, contre l'évêque, contre l'Église d'Angleterre à l'époque.
Oui. Pour moi, j'ai toujours, quand je fais des films qui se passent dans le passé, je me demande toujours la question, si c'était aujourd'hui, qui serait Catherine Parr et qui serait Henri VIII? Et j'ai toujours cette sensation que c'est un peu comme si... Rosa Luxembourg était forcée à marier Donald Trump. C'est vraiment un couple très improbable.
C'est cas de le dire, oui.
Mais elle n'avait pas les choix, la pauvre Catherine. Elle a dû marier Henri, mais elle avait quand même une agenda, elle avait quand même un projet politique qu'elle a essayé. C'est pour ça les noms du film en français, enfin en anglais aussi, les problèmes, enfin, questions avec les titres en anglais. Mais pour moi, c'était très intéressant d'imaginer... Qu'est-ce que seraient les mariages de Rosa Luxembourg avec Donald Trump aujourd'hui si elle n'avait pas les choix? Comment elle pouvait faire pour que Donald Trump puisse changer? Enfin, j'ai dit Donald Trump, comme je pourrais dire beaucoup des tyrans qui sont là. Et je trouve aussi que, évidemment, une chose qui est très contemporaine aussi, parce qu'ils m'avaient demandé ce qu'est-ce qui se passe, comment je pourrais raconter cette histoire aujourd'hui, je crois que c'est l'émancipation, en fait. Quand Catherine, elle est pour la réforme, elle est aussi quelqu'un qui est en train de couper les liens avec Rome, qui c'est un pouvoir colonial. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nos jours. En même temps, c'est drôle parce qu'on parle de la réforme, on parle de l'Église, on parle de tout ça. Mais je trouve que les films, il y a aussi une espèce de scène d'un... Comment on dit ça aussi en français? C'est des scènes d'un mariage, quoi. C'est aussi
c'est la fin du mariage entre les deux.
C'est la fin du mariage. C'est l'anatomie d'un tyran, d'une certaine façon. Alors, tous ces éléments-là, c'est les éléments qui m'ont beaucoup aidé pour imaginer qui va voir ces films, c'est qui les publics de ces films aujourd'hui,
oui,
et pourquoi il doit être fait.
Voilà, pourquoi il doit être fait, justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que c'est pour rendre justice à une figure qui est méconnue, ou est-ce que c'est aussi, comme vous l'avez dit, parce que ça résonne de manière contemporaine, pour alerter aussi sur des faits contemporains? Vous l'avez dit, en plus, on a un plaisir à montrer des femmes mortes.
Oui.
Et là, c'est le contraire.
Non, je crois que c'est un film, tous les films, je sais pas, c'est parce que je suis du Sud, pour moi, les films, il faut qu'on ait besoin de le faire. Les histoires, il faut raconter les histoires qu'on a besoin de raconter. Il faut avoir une certaine urgence. Et là, je crois que la première chose, c'est, pour moi, c'est très intéressant de sortir ces films dans l'année où il y aura peut-être l'élection des Trump aux États-Unis. Mmh. Je trouve qu'il faut vraiment qu'on commence à réfléchir et à penser que ces hommes-là, c'est des hommes qui existent dans un certain contexte, qu'ils ont une façon de penser, de raisonner qui est très spécifique. Alors, je trouve que c'est, pour moi, très intéressant qu'on puisse commencer à faire une espèce de... C'est pas une anatomie, c'est plutôt une autopsie de ces hommes-là. Pour moi, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'il faut quand même célébrer, c'est le temps qu'on commence à célébrer des choses qui se sont passées dans le passé, mais qui ont été toujours racontées plutôt par des hommes hétéros, je dirais, blancs, avec du privilège. Et pour moi, c'était pour moi une espèce de... Comme dans tous mes films, je crois que c'est une façon de célébrer des gens qui sont un peu à l'ombre de l'histoire. Et de jeter, enfin ça fait très littéraire de le dire comme ça, mais de jeter de la lumière sur des personnages qui sont quand même invisibles. Et pour ça, je trouve que c'est très important aussi de raconter... C'est plutôt plus puissant de parler du présent qu'on en fait une espèce de... Ça, c'est le film, une espèce de fable. C'est une espèce de barbe bleue. Et là, je trouve que c'est une façon aussi pas directe et pas frontale de parler
d'aujourd'hui,
du contexte qu'on vit aujourd'hui.
Et cette transposition aujourd'hui, elle est d'autant plus forte que c'est pas un biopic. Vous nous racontez pas l'ascension de Catherine Parr. On est sur ces derniers mois très forts, très intenses pour elle, évidemment, puisque elle va être montrée du doigt. L'évêque va essayer de la faire tomber en prouvant au roi qu'elle l'a trahi. On est dans un film d'époque, vous l'avez dit, avec l'importance des costumes que vous avez souligné, mais on est aussi dans une forme de thriller politique avec ces enjeux-là. Et puis, il y a quelque chose des relations humaines. Jude Law dit, en parlant du film, c'est un drame contemporain sur le couple.
Absolument. Je trouve qu'il a tous les enjeux historiques, mais il a tous les enjeux humains. Et pour moi, c'est drôle. Vous savez, c'est très intéressant de venir d'un pays qui est un pays du Sud, qui est un pays qui a eu des moments horribles, par exemple, quand on avait les militaires, etc. Mais c'est un pays qui n'a pas vécu la monarchie. Enfin, on a vécu la monarchie pendant une vingtaine d'années, des années du 19e siècle. Et pour moi, le plus intéressant aussi, une des choses les plus joyeuses de faire ce film, c'est de ne pas regarder ces gens qui sont là, à la cour, comme des gens qui ont du sang bleu. C'est des gens comme nous. Et pour moi, c'était très important d'avoir un regard horizontal, d'avoir un regard quotidien, d'avoir un regard intime. Et oui, en termes de genre aussi, moi, je trouve que c'est pour moi qu'on a toujours pensé ces films. C'est une femme qui est prisonnière dans un château avec un monstre qui est derrière cette femme. Alors, c'est vraiment un film, c'est un thriller psychologique et aussi un thriller politique. Mais je trouve que... C'est surtout pour moi l'effort. Moi, je pensais beaucoup à Velázquez quand je faisais ces films. J'avais fait un film sur Velázquez, j'ai quoi, il a une dizaine d'années pour Arte, ici en France. On m'a invité. C'est la même histoire, on m'a invité de faire un film sur Velázquez, mais pourquoi moi, Velázquez et tout. Et après, j'ai compris pourquoi cette productrice, cette merveilleuse productrice qui m'a invité pour faire le film. Mais Velázquez, elle avait une façon de peindre qui était très horizontale. Je crois que c'est le premier peintre dans l'Ouest, quoi, qui faisait des portraits des gens qui n'étaient pas des gens qui étaient dans la cour, qui étaient des gens qui n'étaient pas au ciel, qui n'avaient pas des motifs. Enfin, il avait des motifs religieux, mais c'était presque un documentariste de cette époque et il avait un regard très humain par rapport au personnage qu'il peignait.
Et un peu ironique aussi, parfois, quand
oui,
même.
Oui, absolument.
Et d'ailleurs, le Henri VIII, vous prenez un malin plaisir à le filmer avec cette gangrène, cette jambe qui est en train de pourrir. Il y a quelque chose de très symbolique aussi. On rentre presque dans sa blessure à certains moments dans le film.
Non, c'est vrai. Et vous savez, moi, ça m'a beaucoup intéressé de filmer. Vous imaginez quels sont les derniers jours, comme c'est serrant, les derniers jours de Poutine. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces pouvoirs-là, il va aller où? Je trouve que pour moi, c'est aussi cette espèce d'autopsie de ces tyrans-là qui m'intéresse. Et vous avez raison, c'est vraiment des manifestations physiques qui sont là, qui sont en train de débouffer son corps, débouffer son pouvoir, débouffer son délire. Parce que c'est quelqu'un qui s'est trouvé quand même les représentants de Dieu sur Terre. Il a quelque chose d'assez aberrant par rapport à ça. Mais je crois que ça existe encore. Hein. Ils ne sont pas appelés des rois, mais je crois que la sensation psychologique, c'est la même.
When is it going to end?
You never know. Things have a way of happening so suddenly, unexpectedly.
What's wrong?
What is it?
Guy. Est-ce que tu m'aimes?
T'aimer? Je ne peux pas m'aimer moi-même.
Guy, qu'y a-t-il eu? Ai-je une parole maladroite? Ai-je fait quelque chose ou ne l'ai-je pas fait?
Je ne peux rien dire. J'ai trop peur. Comme si j'étais perdu dans la montagne. Des avalanches menacent de partout. Et au moindre bruit, tomberaient d'immenses masses de neige. pour m'ensevelir. Vivant.
Extrait du film écrit sur du vent du réalisateur américain Douglas Sirk, film de 1957.
Qui raconte, Karim Aynouz, l'histoire de Kyle, le fils d'un mania du pétrole, accro à l'alcool, qui se range et qui épouse Lucie, que lui présente son meilleur ami Mitch. Sauf que Mitch aussi est amoureux, évidemment, de cette jeune femme. Kyle va apprendre qu'il est stérile, mais Lucie va tomber enceinte. On est dans un mélodrame qui a bercé votre adolescence, puisque c'est ces films de Douglas Sirk que vous regardiez quand vous étiez adolescent au Brésil.
Vous savez, c'est tellement drôle parce que quand j'étais adolescent au Brésil, il avait, je crois, 4 telenovelas par jour. Il avait la telenovela de 6 heures, qui était toujours des histoires d'époque. La telenovela de 7 heures, c'était la comédie. De 8 heures, c'était drame. Et 10 heures, c'était scandale. Des histoires très...
sulfureuses.
Spice, sulfureuses et tout. Mais dans l'après-midi, parce que moi, j'allais à l'école le matin et je faisais mes cours dans l'après-midi. Et au milieu de l'après-midi, il avait toujours des films américains doublés qui passaient à la télé. Je ne sais pas pourquoi. C'était beaucoup de films de Douglas Sirk. Et moi, j'ai vu ces films-là, mais je ne comprenais pas. Pour moi, j'étais ado, mais pas exactement. Je crois que j'avais entre 8 ans et 12 ans. Ils m'ont beaucoup marqué, là, quand j'écoute cette... On vient d'écouter un truc ici. Et ils m'ont beaucoup marqué, mais je ne savais pas pourquoi. C'est quelque chose qui... Et aussi, je crois qu'il avait quelque chose de très exagéré, qui m'a beaucoup touché. J'avais toujours honte de dire que j'aimais ces films-là. Et quand je suis parti pour étudier, enfin, je suis parti à New York, pas pour étudier le cinéma, pour étudier l'architecture. Et après, j'ai commencé à travailler dans les cinémas comme ça, par une intuition. Et j'ai travaillé pendant longtemps avec un réalisateur américain que j'adore, qui s'appelle Todd Haynes. Et pour sa productrice, une femme que je suis un grand fan et une grande amie, qui s'appelle Christine Vachon. Et c'est là que j'ai récupéré et que j'ai revu le film de Douglas Sirk. Je me souviens qu'il avait un cycle de Douglas Sirk dans un cinéma à New York. Et j'ai découvert l'imitation, enfin, j'ai revu l'imitation de la vie. Et là, j'ai compris qu'il ne fallait pas avoir honte de ces histoires. Et je crois que la raison que j'avais un peu honte, c'est parce qu'ils étaient un peu proches des telenovelas.
Mmh. Mais ils sont mélodramatiques.
Ah ouais. Et
ça pleure.
Mais la réalisation de ces films, c'est quelque chose de sublime et de. C'est très émouvant pour moi. Même là, quand j'écoute la bande-annonce en audio de Written on the Wind. Ça me touche beaucoup. Et je trouve que peut-être c'est parce que la musique, peut-être c'est parce qu'ils sont pas, ils sont dévergondés. On dit dévergondés, on peut dire ça.
Oui, ça dépend ce que vous voulez dire.
Mais... non, mais ce que vous retrouvez en fait dans ce style, dans ce genre de film aussi, c'est l'émotion, ça,
oui,
vous l'avez dit.
Oui.
Mais c'est aussi le regard sur la société, parce que dans Écrit sur du vent, on est quand même face à ce couple, cette histoire de couple, ce récit intime où au final, il y a aussi une femme qui se fait frapper. Donc oui. On est dans un regard aussi ouais. Sur la société, sur comment est-ce qu'on vit à cette époque, comment il y a un regard sur l'époque. Ouais.
Non, il a un regard politique sur l'époque, c'est jamais un regard neutre. Il a des fois que c'est un regard moralisant, mais en fait, pour moi, la plupart, et surtout les films de Sirk, et après, ils ont été un peu récupérés en Allemagne par Fassbinder, aux États-Unis par certains réalisateurs, en Espagne par Almodovar, par exemple. Je trouve que c'est toujours une façon d'attaquer les sujets politiquement très important, très urgent, mais pas par la tête. C'est par l'émotion et c'est par l'intuition et c'est par un truc qu'on ne comprend pas exactement, mais qu'on ressent. Et c'est ça que je trouve que c'est une des raisons par laquelle je fais le cinéma.
Il y a chez vous aussi cette idée de faire un... Est-ce que vous dites un cinéma engagé? Est-ce que c'est un mot que vous assumez?
Écoute, toujours engagé, mais je trouve que ces mots-là, ces jours-là, je ne sais pas pourquoi, c'est pas devenu très sexy, mais oui, toujours un cinéma engagé et un cinéma avec de la magie. Je trouve que les mélanges de ces deux mots-là sont plus proches de ce que je vais faire avec le cinéma. Parce qu'il y a des fois que les mots engagés, c'est un peu sec. Et je trouve que le cinéma est jamais sec. C'est toujours quelque chose d'explosif et de coloré et de magique, quoi.
Dans les années 90, vous commencez par faire des courts-métrages, des documentaires. Et puis, il y a votre premier long-métrage au début des années 2000, Madame Sata, qui raconte l'histoire de la vie de João Francisco dos Santos. Vous nous le décrivez en quelques mots pour qu'on comprenne aussi quel type de personnage vous voulez montrer et où nous emmène cet engagement dont vous parlez.
C'est un personnage qui était un personnage axé sur un personnage réel qui a vécu à Rio dans les années 30, 40, 50 et qui était une espèce de bandit, mais aussi une espèce d'artiste transformiste, qui était un garçon qui était très explosif. C'était comme une bombe merveilleuse et qui a adopté 7 enfants à la fin de sa vie. Il était un grand fan de Josephine Baker. Son nom, alors il avait une espèce de composite de ses personnages. C'est un personnage qui a beaucoup de choses en même temps et qui, pour moi, la grande raison que je voudrais faire un portrait de ce personnage, c'est pour moi, c'est lui le Brésil. C'est les métissages. C'est quelqu'un qui était très insoumis, c'est quelqu'un qui était très coloré, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie pour les autres. Et je trouve que pour moi, c'était une espèce de synthèse de ce que j'imaginais, ou peut-être que je rêvais que c'était le Brésil. Et un personnage qui avait un truc aussi, qui pour moi était très important, c'était la rage. C'était un personnage enragé, et ça m'a donné beaucoup d'envie de raconter, pas sa vie, mais un moment de sa vie.
Vous êtes ce cinéaste engagé, ces films qui sont des films qui racontent la société, qui ont aussi quelque chose de militant, qui veulent défendre des choses. On a parlé déjà avec Le jeu de la reine de la visibilité des femmes qui ont joué un rôle. Mais vous avez aussi cette idée de montrer comment dire des personnages qui parlent de vous, qui parlent de votre histoire. Vous avez été élevé par votre maman au Brésil, vous avez connu votre père très tard, il y avait aussi votre grand-mère, vos tantes. Vous avez vécu, grandi, été éduqué, entouré par des femmes. Comment ça s'est ressenti ensuite dans les films que vous avez pu faire?
Mais vous savez, je trouve qu'il y a beaucoup de films qui parlent des expériences qui étaient des expériences très proches à moi, des films qui parlent moins, des films qui parlent trop. Mais je trouve que ça revient toujours. Et ça revient pas toujours à cause que je vais parler de moi, mais je trouve que ça me manque dans les cinémas des expériences que j'ai vécues. Et c'est pour ça que tous les fois, ça contamine un peu tout ce que je raconte. Parce que, par exemple, la raison que j'ai fait Madame Satan, mon premier film, c'est parce qu'il avait très peu de films sur des personnages queers, des personnages qui étaient afro-brésiliens. Et je me sentais pas représenté. Le deuxième film, comme j'ai fait une espèce de chronologie comme ça, que c'était Les Selles de Sueli, s'est fait dans un moment dans l'histoire du cinéma de l'Amérique latine, avec très peu de films avec des protagonistes féminines. Et évidemment, il a toujours des touches. Quand on ne fait pas un cinéma qui est à 100% industriel, qui est un cinéma... Mon cinéma, il n'est pas artisanal, c'est un cinéma qui est un cinéma fait à la main, je dirais, et à la machine, mais aussi à la main. Et je trouve que je laisse toujours échapper des expériences personnelles, parce que je trouve que elles ne sont pas assez racontées. Et quand on pense du cinéma qui vient du Sud, il a tellement des choses à raconter qu'il n'y a pas dans les cinémas qui est au Nord, qui est dans les États-Unis, ou même en France, ou en Europe, ou en Angleterre, que quand je raconte mes histoires, c'est aussi pour, pour remplir un vide.
Un vide.
Ouais.
Vous avez connu un certain succès dès votre premier film. Vous êtes sélectionné dans la catégorie Un certain regard à Cannes, des multiples récompenses, et vous avez la chance, mais on va pouvoir en parler, de commencer votre carrière de cinéma au Brésil avec Lula au pouvoir. Et Lula au pouvoir, ça veut dire les moyens de faire du cinéma à l'époque. Ce qui a ensuite changé, si on s'intéresse à l'histoire plus récente, avec l'arrivée de Bolsonaro. Il y a eu un moment donné où vous avez été obligé de quitter le Brésil.
Ben écoutez, moi, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui si ce n'était pas pour Lula. Madame Satan, c'est un film que j'ai commencé à faire en 1994. Et ça m'a pris 8 ans pour le faire. C'est-à-dire que le film a été tourné un an après l'arrivée de Lula au pouvoir. En fait, Lula est arrivé en 2002. Le film, il a été tourné en 2001 et le film a été tourné, il existe grâce à un cinéaste brésilien qui s'appelle Walter Salles et grâce à la France. En fait, c'était un film qui a été financé par Canal+, qui était vendu par World Bunch, qui était produit par Walter Salles parce qu'il avait pas, un système qui était mis en place au Brésil pour des films brésiliens. Les films brésiliens, cinéma brésilien, je crois qu'à cette époque, on faisait 4 films par an. Quand Lula est rentré au pouvoir, tout a changé radicalement. Et quand j'ai dit que je ne serai pas là, c'est parce que toute ma vie au cinéma, elle existe grâce à les comment on dit ça en français, les public policies,
les
politiques publiques qui ont été mises en place par Lula, et pas simplement les politiques publiques financières, mais aussi géopolitiques. Il ne faut pas oublier que moi, je suis né dans un État. C'est drôle parce que j'ai un autre cinéaste brésilien qui est très connu aujourd'hui au monde, qui est Kleber Mendonça. et on vient de la même région. Et c'était une région qui était complètement invisible pendant les années avant Lula. Alors je dois, et je dis ça avec beaucoup d'honneur, j'ai crié même le nom de Lula après la projection de Firebrand à Cannes, parce que je dois une grande partie de ma vie à des décisions politiques qui ont été prises pendant les temps de Lula. Et évidemment qu'avec la montée, et j'ai dit ça très clairement, avec la montée du fascisme, parce que Bolsonaro, il est rien d'autre qu'un fasciste ripugnant, et qui a été élu et qui a tout arrêté. Alors pour moi, il a eu une vraie rupture. Et je crois que Firebrand, c'est très drôle, parce que je crois que ça arrive dans un moment...
Les Jeux de la Reine en anglais.
Les Jeux de la Reine, ça arrive dans un moment, pardon, qui est un moment où tous les projets que j'avais au Brésil, ils étaient annulés après la montée au pouvoir de toute cette bande. Et c'est vrai que ça, c'était un changement radical, parce que pendant 10 ans, j'ai eu de la chance de... pas simplement de faire beaucoup de films, mais d'expérimenter, d'essayer des choses, d'imaginer comment raconter une histoire d'une façon qui était très libre.
Exchanges with graduate students around their interest in the period of 68.
Les échanges avec mes étudiants autour de la période de mai 68 étaient importants pour moi. Parce que ce ne sont pas seulement les événements, mais aussi la pensée. Et si quelque chose a été transmis. Et par exemple, comment le féminisme nourri de psychanalyse est utilisé. On peut voir que les relations entre les hommes et les femmes sont très différentes dans les jeunes générations. Pour quelqu'un qui a enseigné pendant 40 ans, je trouve que les femmes sont bien plus à même de réaliser leur potentiel. Et ça me donne de l'espoir.
La voix de l'artiste féministe américaine Mary Kelly, c'était en 2016. Oh,
vous l'aviez pas reconnue avec les traductions?
Wow, Mary Kelly.
C'était qui pour vous? Vous nous racontez?
Alors, Mary Kelly, c'était quelqu'un qui était très important. Il avait des femmes, quand j'étais aux États-Unis, qui m'ont beaucoup marqué. C'était Mary Kelly et Yvonne Rainer, qui est aussi une danseuse américaine vraiment incroyable. Et Mary Kelly, je l'ai rencontrée parce que il avait un programme qui faisait partie de le Whitney Museum of American Art, qui était un musée new-yorkais très connu. Et ils avaient un programme qui durait une année. C'était une espèce de truc qu'on faisait après une maîtrise. Et il avait beaucoup de monde qui ont passé par ces programmes, qui donnaient des cours, qui faisaient de lectures. Et Mary Kelly, c'était une de ces personnes. Et elle m'a beaucoup touché. Je ne l'ai pas vue depuis très, très longtemps. Et ça m'a beaucoup ému d'écouter cette voix. Parce que c'est quelqu'un qui m'a fait comprendre que, en fait, ce qu'on parlait avant, les histoires intimes, elles peuvent être politiques. Les histoires intimes, elles ne sont pas narcissiques, elles sont en fait une façon de partager une expérience qui n'est pas assez partagée. Et elle m'a beaucoup. Et Mary Kelly, elle m'a donné beaucoup de force parce que. Aussi, à cette époque, je ne me croyais pas beaucoup, quoi, de venir du Brésil, d'être à New York. C'était un monde, même si c'était un monde très... qui avait beaucoup de diversité, qui avait beaucoup de monde qui était là du monde entier, mais c'était quand même dans les mondes de l'art, dans les mondes de la culture, dans les mondes du cinéma. C'était encore un monde qui était très blanc, quoi, qui était très américain.
Et comment vous avez réussi à vous sentir légitime, justement? Ou autorisé, en tout cas, à faire quelque chose, à créer?
C'était pas simple. Moi... Je crois qu'il a quelque chose qui était très important à cette époque-là. J'ai parlé des rages, hein. J'ai parlé des rages quand j'ai parlé de Madame Satin. Et je crois qu'à cette époque, c'était vraiment le... Alors, j'apporte un autre sujet à notre conversation. C'était les moments les plus horribles du sida. C'était les moments où les gens étaient en train de mourir. Et il avait quand même une communauté qui s'est formée, surtout à New York, autour de la politique contre ce qui se passait avec les sida, ce qui se passait avec dans la communauté queer. Et je trouve que je me suis... C'est cette communauté qui m'a embrassé, on dit embrassé,
oui.
Qui m'a accueilli.
Oui.
Et embrassé, c'est très littéral. Et je trouve que c'était là que j'ai commencé à voir des voix qui étaient des voix comme la mienne, qui étaient en train de recevoir de l'attention. Par exemple, moi, je me demande comment je suis rentré dans ces programmes au Whitney Museum. C'était un truc très américain. Mais je crois que les Américains, à cette époque-là, et surtout dans la communauté féministe, queer, la communauté qui avait beaucoup de gens, moi j'avais beaucoup de copains qui étaient African-American, je crois qu'il y a un vrai changement qui se passe dans les années, au début des années 90, qu'évidemment, il est pas là par hasard. Il commence dans les années 60 avec le Civil Rights Movement. C'est toute une histoire qui, mais je crois qu'à ce moment-là, il avait une espèce d'ébullition qui, je crois, qui était causée, qui la cause de ça, c'était vraiment cette épidémie horrible qui était, dont New York, c'était un des épicentres. Et je crois qu'il avait quand même une espèce d'urgence des gens de raconter des histoires, parce que c'était comme si on était en train de disparaître.
Et j'ai pour le coup, c'était des histoires intimes, véritablement politiques.
Mais oui, mais c'est ça qui était génial, parce que c'était, par exemple, Mary Kay, elle n'était pas de cette époque-là. Mary Kay, c'était des années 60, 70. Mais la présence de Mary Kay nous a permis aussi d'imaginer et de penser que les histoires qu'on racontait... Alors, mon premier film, par exemple, c'était pas censé être un film. C'était une espèce de j'ai tourné avec ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était une femme qui a élevé ses enfants toute seule, qui a travaillé à la maison parce qu'elle pouvait pas travailler ailleurs, parce qu'elle était une femme qui était pas mariée ou divorcée à l'époque. Et j'ai jamais pensé qu'il racontait l'histoire de ma grand-mère, ça peut être un acte politique. Mais en fait, c'était un acte politique parce que mon premier court-métrage, c'était sur ça. Et en fait, on a jamais parlé de cette génération de femmes qui étaient silencieuses par rapport à ce qu'elles avaient fait. Et je trouve que c'est ça que j'ai appris avec Mary Kay, et c'est ça que j'ai appris en étant dans une ville qui était mise en abîme avec tout ça. Et je crois que c'est une ville qui a invité à tout le monde qui était en train d'être à la marche, qui était en train d'arriver, à développer sa propre voie. Je crois que j'aurais jamais fait du cinéma si j'étais pas à New York à cette époque-là.
Merci beaucoup, Karim Aïnous, d'être venu dans les Midis de Culture.
Merci à vous.
Je vais signaler donc d'abord la sortie de votre film aujourd'hui en salle en France, Le Jeu de la Reine, avec Alicia Vikander et Jude Law. Et puis je vais signaler aussi que le 17 avril prochain ressortira au cinéma Marin des Montagnes. On parlait là aussi de votre histoire, de l'histoire notamment de votre maman et de votre papa qui était kabyle. Ça sort donc une nouvelle fois au cinéma en France, Marin des Montagnes. Ce sera le 17 avril prochain.
Pour finir, Karim Aïnous, nous avons choisi deux chansons. Une chanson algérienne et une chanson brésilienne. Laquelle souhaitez-vous écouter ?
Algérienne.
الوحش الحبابه تشوف كاري وفرحو مطال علي جرحت خدودي وبصاري يا ربي يا علي حان عليا كي نشوف عايبر دراري بابا ويما العزاز عليا.
Lily Boniche, Alger, pour terminer cette émission. Merci beaucoup à Karim Aïnous. Une émission préparée comme tous les jours par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. L'émission est réalisée ce midi par Nicolas Berger et à la prise de son Noé Chabad. Merci Géraldine.
Merci Nicolas, à demain.
À demain.
J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. Qu'il m'achète comme l'Algérie, comme elle est belle, l'habaf, l'habaf, faillit une courbe, même une sahab, Algérie, chal, l'habaf. فكرك ولا بلانش قلبي بلان دو تريستيس ما ينساك جان ريفانش وي تي بلاس دو غوفيرنمون معمره بحبابي لو نكون غريب et plein de Je souris, j'aime toutes les villes, un peu plus Paris. L'équipe magique comme l'Algérie, comme elle est belle, ou l'Habaf, l'Habaf, Fain, le Koulba, l'Ensa. Dans son cinq brouillis, ma ou baba, de son soleil, je ne puis me passer. Depuis mon enfance, ne dirai dans ses rues sans me lasser. Kalbi, kalbi, on était pris. J'aime toutes les villes un peu plus Paris. Lakin machi comme l'Algérie, comme les mains, Hamaf le mal, Fain koun ma, ma nensa, Alji, Alji, shhal el haba. ولا رغات واحد يدوس سولا خور خلى والدي دان كو دو تات كيف يكونوا بعيد يعرفوا الخيمه ويتي مو بير وين راكي يا يما مون كور فو زابيل اي لي مورتري جاب توت لي فيل لكن ماشي كوم الجيري كوم الابال ونحبها في تهبال فين نكون ما ننسى الجي شحال